de travailler très concrètement sur des projets de développement de technologies biométriques avec deux collègues sociologues, Sylvie Crépeau et Gérard Dubet, et ce qui nous a donné accès à des terrains d'expérimentation, essentiellement trois terrains tout à fait riches. Premièrement, la biométrie scolaire, parce que nous avons pu aller dans des écoles, les premières écoles en France qui ont mis en place des systèmes biométriques pour le contrôle d'accès au self. C'était en 2003. 2003-2004, nous avons pu accéder aux trois établissements scolaires du sud de la France pionniers dans ce domaine. Par ailleurs, nous avons pu aussi être impliqués, alors en qualité de sciences humaines, là je rebondirai vraiment, ce qui était très juste, ce que vous avez dit sur la position très ambivalente des sciences humaines dans cette affaire. Nous avons été impliqués dans un projet franco-belge de biométrisation du visage Schengen, qui a eu lieu en 2005-2006. L'idée était de désigner un certain nombre de consulats tests, consulats français et consulats belges à l'étranger, et de mettre en place à titre expérimental un dispositif de biométrisation du visa Schengen. Donc ça nous a permis d'accéder à la fois, donc ça c'était le deuxième terrain, à ces consulats, et au troisième terrain, à la police aux frontières, à Orly et à Roissy essentiellement, mais aussi au port de Marseille. Donc ce que je vais raconter s'appuie vraiment sur une expérimentation directe de l'usage de ces techniques, et on s'est placé beaucoup plus du point de vue des utilisateurs, enfin de ceux qui font fonctionner ces machines, c'est-à-dire des agents consulaires, des personnels scolaires qui étaient en charge, enfin qui avaient en charge la mise en application de ces technologies, les policiers aux frontières, beaucoup plus que des usagers des biométrisés, puisque là, les possibilités d'enquête, d'observation, d'entretien étaient quasiment nulles. Alors, avant de développer un certain nombre de points, je voudrais rebondir donc sur ce qui a été dit concernant l'implication des sciences humaines. Alors c'est tout à fait vrai que ça nous a mis dans une position assez inconfortable. Bon, bien sûr, l'intérêt de pouvoir produire un discours, apporter un éclairage sur ces technologies, enfin les différents usages de ces technologies, mais il faut savoir que notre implication s'est faite dans un contexte, dans des conditions assez troubles, c'est-à-dire que aussi bien en ce qui concerne... alors, pour l'école, c'est un peu différent, mais en ce qui concerne la police aux frontières et les consulats, à l'époque, le ministère de l'Intérieur et le ministère des Affaires étrangères en France, qui était en charge du pilotage de ce projet d'expérimentation, surtout le ministère de l'Intérieur, ont été obligés, finalement, de faire appel à nos services, entre guillemets, contre leur volonté, d'ailleurs, parce que c'était une injonction quasiment de la CNIL. Donc, on a été impliqué dans ce projet, pour ainsi dire, contre la volonté de ceux qui le pilotaient. Et ça s'est traduit de manière extrêmement simple, c'est une très grande difficulté pour accéder au terrain. C'est-à-dire qu'on vous demande d'estampiller des projets par un éclairage sciences humaines, vérifier que tout ça fait sens, que le point de vue des usagers est pris en compte, enfin, cette fois-ci les biométrisés est pris en compte, etc. C'est un petit peu un bombage, mais beaucoup de difficultés pour accéder au terrain. Et je me souviens en particulier que à Orly, alors ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque on a testé ces dispositifs, les policiers aux frontières ont été les plus récalcitrants. Il y a eu au niveau scolaire très peu d'opposition à l'époque, parents d'élèves, professeurs, totalement à tome. Les policiers aux frontières ont été extrêmement virulents, extrêmement récalcitrants, ce qui peut paraître assez surprenant, puisqu'on a envie de penser que la biométrie est une technologie intrinsèquement policière, c'est-à-dire s'inscrivant dans les logiques de travail des policiers, en particulier des policiers aux frontières. Ça a été exactement le contraire, pour des raisons qu'on sert à expliquer. Donc les policiers aux frontières ont été vraiment très hostiles à l'arrivée, même à titre expérimental, de cette technologie. Et à Orly, d'après ce qu'on en a su, on a pu évidemment l'observer, il y a eu des bris de machines. Des policiers qui ont cassé à la hache des machines, à tel point que les promoteurs de l'expérimentation ont dû réviser complètement la manière de penser les OPEP, en sécurisant les OPEP, en interdisant l'accès aux fils, etc., aux opérateurs de première ligne. Donc c'est tout à fait rocambolesque. Et on nous a interdit quasiment jusqu'au bout du projet de recherche l'accès à Orly. On a pu avoir deux ou trois entretiens en toute fin de projet lorsque les choses étaient un peu calmes. Donc vraiment, le principal problème des sciences humaines dans ces affaires-là, c'est l'accès au terrain, c'est-à-dire une espèce de franchise, effectivement, de la part des, alors des, là c'était le ministère, les industriels, j'en rebondis sur le deuxième point que vous avez abordé, qui est tout à fait fondamental, c'est le rôle considérable des industriels dans cette affaire, qui ont intérêt aussi à impliquer les sciences humaines, mais avec cette ambivalence que je souligne. Ça, c'était le premier point. Alors, maintenant, ce qu'on m'a demandé de faire, c'est essayer de resituer la biométrie d'un point de vue plus historique. C'est pas... bon, je vais essayer de le faire, mais de manière un peu... plutôt à titre d'entrée en matière. Quand on essaye de réinscrire ces technologies-là dans une perspective, une certaine profondeur historique, on va dire, on les rattache au grand projet d'encartement, de mise en carte des individus qui ont commencé à voir le jour au XVIIIe siècle, essentiellement. Depuis le début du XVIIIe siècle, et de manière récurrente, on a eu des grands projets comme ça, un peu pharaoniques, de mise en carte de tous les individus, de tous les nationaux, et la biométrie, finalement, est envisagée plutôt dans cette perspective. Alors, quand on aborde des choses en historien, enfin, je me réfère là à des travaux d'historiens qui sont intéressés justement à cette question de l'identification des Français à partir du XVIIIe, on voit trois grandes thématiques. Premièrement, la thématique du contrôle social, effectivement, qui s'intensifie, qui se dote d'instruments de plus en plus raffinés, sophistiqués. Deuxièmement, une problématique plutôt sociologique sur la construction, si vous voulez, d'une identité nationale, sur la construction d'une appartenance des individus à une communauté nationale. Il y a cet aspect-là aussi qui est tout à fait important. Et le troisième aspect qui est privilégié aussi par les historiens, c'est le travail sur le décalage ou la distorsion entre ce qu'on appelle les identités de papier, hein, donc les cartes, passeports, livrets, etc., et les identités réelles. Donc une approche un peu plus psychosociale, on va dire, de cette affaire. Bon, moi là-dedans, je m'intéresserai plutôt au premier point, c'est-à-dire la surveillance, enfin le contrôle social, et notamment la biométrie en tant que mécanisme de pouvoir. Et cette question du pouvoir, ce que j'appellerais, donc avec Gérard Dubès, si lui répond, un pouvoir biométrique, c'est une expression qu'on employait, sur cette question-là, j'aborderai trois points. Trois points qui me paraissent tout à fait fondamentaux. Le premier point, je l'emprunterai à Foucault, philosophe Michel Foucault, qui, à mon avis, est très utile pour penser cette affaire-là. Et comme vous le savez, Foucault a beaucoup intéressé au pouvoir, en particulier à ce qu'il appelait le biopouvoir, donc un pouvoir qui prend la vie en charge, qui fait rentrer la vie dans des logiques et des technologies de pouvoir. Ce que Foucault nous dit du pouvoir, je retiendrai deux aspects qui me paraissent importants pour comprendre ce qui est en jeu dans la biométrie. Le premier aspect, c'est son hétérogénéité. On se représente le pouvoir comme quelque chose de massif, d'homogène, s'exerçant verticalement sur une masse de sujets indifférenciés. Or, Foucault a bien montré que pas du tout. Le pouvoir a quelque chose au départ qui émerge de manière très locale, dans des points innombrables, pas du tout coordonné. Et d'ailleurs, Foucault insistait beaucoup sur quelque chose qu'on occulte généralement, c'est que le pouvoir, ça fonctionne pas très bien, ça s'articule pas très bien, enfin, les différentes tactiques, technologies même de pouvoir s'articulent pas forcément très bien les unes aux autres. Donc il y a toujours du jeu dans le pouvoir, et c'est ce qui amène le pouvoir à toujours essayer de perfectionner ses mécanismes. Donc le pouvoir, ça émerge en des points innombrables, c'est pas coordonné, c'est très hétérogène, et effectivement, au bout d'un certain temps, on voit se constituer des nappes de sens, une certaine homogénéisation. Mais ça, c'est pas au départ, hein. Ça se construit lentement, cette homogénéisation des mécanismes de pouvoir. Or, donc ça c'est le premier aspect. Le deuxième aspect très important dans ce que nous dit Foucault, c'est que le pouvoir n'a pas de titulaire. Hein, quand on s'intéresse au pouvoir, il ne faut pas se représenter, envisager les choses prioritairement comme du point de vue de celui qui exerce le pouvoir, c'est-à-dire de quelqu'un qui a des intentions, qui a une subjectivité, et qui fait fonctionner le pouvoir comme quelque chose qu'il possède. Non, il faut analyser le pouvoir du point de vue de ses effets objectifs, et pas des intentions de celui qui le fait fonctionner. Or, je crois que ces deux aspects sont extrêmement importants quand on va essayer de comprendre ce qui se passe. Et là, je m'appuierai sur nos travaux en matière de biométrie scolaire, puisque ces deux aspects sont vraiment organisateurs, finalement, de la manière dont la biométrie scolaire s'est mise en place à partir des années 2003-2004. D'abord, hétérogénéité du pouvoir. Quand on s'est rendu à notre surprise, d'ailleurs, dans les collèges, les trois collèges donc, qui ont été pionniers dans ce domaine, alors d'abord, ce qu'il faut dire, c'est qu'on a été très bien accueillis. Ce que je disais à propos des policiers aux frontières et des agents consulaires, difficultés d'accès au terrain, les industriels, etc., c'est exactement le contraire. On a été reçus par des principaux collèges qui ont été pionniers, qui se représentaient leur tâche quasiment comme une mission de service public. Et ils étaient extrêmement fiers de montrer leur début. Donc on a pu, là, pour le coup, accéder au terrain de manière extrêmement facile, un coup de téléphone. On a pu interviewer des élèves, des professeurs. Bref, on a pu faire un peu ce qu'on voulait. Aujourd'hui, c'est terminé. Mais à l'époque, c'était vraiment, il y avait une sorte de fierté vraiment du dispositif de la part de ces promoteurs. Alors, c'est ce qu'on s'est rendu donc dans ces trois collèges, et ce qui nous a frappé au premier abord, c'est justement la très grande hétérogénéité. Alors que l'application était la même, c'est le contrôle d'accès au self, la très grande hétérogénéité, d'abord des motivations, pourquoi mettre ça en place. Donc, un principal nous disait, oui, mais alors c'est pour assurer un suivi des élèves en temps réel. C'est-à-dire qu'un élève qui doit être à la cantine et qui n'y est pas, peut-être il y a un problème. Donc, il faut le savoir tout de suite et on va le voir, on lui demande ce qui se passe, où est-ce qu'il était. S'il y a un problème, on alerte les parents et on met en place un encadrement pédagogique dans l'intérêt de l'élève. Donc un suivi en temps réel, mais qui s'inscrit dans la mission scolaire. Si vous voulez, dans ce qui est la mission scolaire, c'est-à-dire le bien de l'élève, etc. Et puis il y a un autre collège, le discours est tout à fait différent. Beaucoup plus cynique d'une certaine manière, l'idée était de mettre en place un dispositif permettant d'améliorer le taux de recouvrement des créances de cantine. Et là, il y a une histoire que je raconte systématiquement quand je parle de cette expérience. C'est l'histoire d'un élève, c'est une observation, il se présente à la borne d'accès au self, et donc il faut se représenter l'accès au self, enfin l'accès biométrique au self, comme étant une espèce de petit portillon, ce qu'on trouve dans le métro, avec à côté un petit boîtier noir. Donc c'est une technologie qui utilise le contour de la main, hein, donc c'est une machine qui reconnaît l'élève par le contour de sa main, la géométrie de sa main. Et donc l'élève se présente devant le petit boîtier noir, il met sa main dans la machine, et s'il n'est pas reconnu, ou s'il n'a pas payé la cantine, il y a un message qui s'affiche en hauteur, sur un écran tactile, retard de paiement, non reconnaissance, mais enfin là c'est retard de paiement, c'est tout à fait spécifique, le portillon ne se débloque pas, il y a le préposé ou la personne qui s'occupe du bon, de l'organisation du passage, enfin la surveillance du passage au self, qui arrive immédiatement, qui demande à l'élève pourquoi t'as pas payé la cantine, etc. Et l'élève fond en larmes, enfin qui est 25e, fond en larmes, en disant c'est parce que mes parents sont en train de divorcer, ils sont en train de se séparer, ils sont jamais à la maison, et je suis tout seul, etc. Et avec les élèves derrière, dans la file d'attente, qui disent oui, tes parents ne s'occupent pas de toi, etc. Donc c'est une technologie qui fait fonctionner beaucoup de violence, d'une certaine manière, une violence psychologique extrêmement forte. Alors, évidemment, l'élève, quand ça lui arrive, il rentre chez lui le soir et il prend ses parents au et il leur dit écoutez, vous faites ce que vous voulez, mais il faut payer la cantine. Et le principal du collège disait de manière cynique, donc je le répète, que depuis qu'ils avaient mis en place ce système, ils avaient considérablement amélioré le taux de recouvrement des créances de cantine. Ça fonctionnait. Donc, des motivations complètement différentes. Maintenant, en termes de processus, hein, de passage, là aussi, complètement différent. Dans le premier collège, si vous voulez, les personnels traditionnels, enfin les personnels de la vie scolaire, donc les surveillants, les pions, hein, les pions qu'on connaît tous, avaient gardé la maîtrise, c'est-à-dire de la passage au self, c'est-à-dire que c'était eux qui s'assuraient que les élèves mettaient bien leurs mains dans la machine, etc. Dans le collège privilégiant l'aspect gestionnaire du recouvrement des créances de cantine, les personnels de la vie scolaire étaient complètement marginalisés. Et à la place, on avait plutôt privilégié des personnels du service de gestion. Je dis ça parce que je reviendrai sur cet aspect qui me paraît tout à fait fondamental. J'anticipe un petit peu, ce sont avant tout des dispositifs de gestion. Et je reviens sur quelque chose que vous avez dit, c'est tout à fait juste, ce sont des dispositifs de gestion. Bref, donc personnel de gestion, donc il fallait se représenter cette personne, enfin, se la représenter comme quelqu'un qui n'est pas un fonctionnaire, quelqu'un qui n'est pas rattaché à titre permanent à l'établissement, plutôt probablement un emploi déclassé, enfin, une personne un peu déclassée. Donc on met à ce poste extrêmement sensible où il s'agit finalement de faire passer les élèves dans ces conditions. Donc là encore, en termes de processus, les choses sont complètement différentes et très hétérogènes. alors que l'application, encore une fois, est exactement. Bon, j'arrête là sur cette hétérogénéité. Je voudrais faire remarquer que quelques années après, donc nos travaux, une jeune étudiante de Strasbourg, une étudiante en sciences de la com et sociologie, s'appelle Mélanie Fraisse, a elle-même entrepris de faire son mémoire de master deuxième année sur la biométrie scolaire. Elle est allée sur le terrain. Et à ma connaissance, il n'y a que nos travaux de 2003-2004 et le sien de 2008-2009 qui est porté sur cette question-là de la biométrie scolaire. Donc elle a fait ce travail, elle est pareillement allée sur le terrain, elle a fait des entretiens. Et les comptes rendus d'entretien sont tout à fait intéressants parce que justement, ils montrent ce processus d'homogénéisation dont nous parlons depuis quelques années. C'est-à-dire qu'on voit les discours sur les finalités, sur les motivations s'harmoniser avec cette mise en avant dans tous les discours des proviseurs, etc., et de manière assez homogène, vraiment, des impératifs de gestion. Ça, c'est le premier point. Et deuxièmement, on voit dans les comptes rendus d'entretien, ce sont les personnels de gestion qui vraiment deviennent moteurs. Lorsque nous, on a commencé nos études là-dessus, c'était les proviseurs, enfin les principaux de collège. Les principaux de collège portaient vraiment c'était leur bébé, quoi. Ils avaient à défendre ça en conseil d'administration, à faire voter la décision de financer ce dispositif, enfin bon, qui était financé d'ailleurs par les conseils généraux. C'était les principaux qui étaient porteurs. Là, ce sont les personnels de gestion. Et d'ailleurs, les personnels de gestion, dans la région où l'étudiante a fait son étude, c'est-à-dire en Alsace, sont réunis, certains gestionnaires de certains établissements sont réunis une fois par an par un industriel qui a une réunion annuelle et qui leur présente les nouvelles technologies sur le marché. Et les gestionnaires, ce ne sont pas les principaux, les proviseurs, ce sont des gestionnaires. Et si on lit bien les comptes rendus d'entretien de cette étudiante, quand elle interviewe des proviseurs, par exemple, des principaux, voilà, c'est des proviseurs, les proviseurs se montrent de plus en plus critiques. C'est-à-dire qu'ils mettent en avant des problèmes de protection des données personnelles, de libertés individuelles. C'est-à-dire qu'ils ont une sorte de distance qu'il n'y avait pas du tout chez les principaux de collège en 2003-2004, qui étaient eux porteurs. Donc l'évolution va dans le sens d'une homogénéisation d'abord des discours et je pense des pratiques, mais là il faudrait vraiment pouvoir retourner sur le terrain, premièrement, et deuxièmement, une homogénéisation aussi de ce primat des impératifs de gestion dans les justifications, les motivations qui sont mises en avant lorsqu'on veut dire pourquoi on installe ce type de technologie. Alors juste pour terminer sur le cas scolaire, par une ou deux données, enfin un ou deux chiffres pour le coup, aujourd'hui donc 5-6 ans après le démarrage de cette affaire, il y a, alors c'est très difficile de le savoir avec certitude, mais il y a aux alentours de 400 établissements scolaires équipés en biométrie pour le contrôle d'accès au self. 400 établissements scolaires, en sachant que, et là je suis entièrement d'accord avec ce qui a été dit tout à l'heure, sur le fait que la grille d'analyse, protection des données personnelles, CNIL, etc., les mailles sont trop grosses. Un bon exemple, c'est la CNIL avait donné un avis défavorable à un premier projet de biométrisation à l'école, de biométrisation d'accès au self en 2000, par un collège niçois qui avait voulu adopter la technologie de l'empreinte digitale. Et la CNIL avait dit bon, parce que ça ne paraissait pas proportionné à la finalité, etc., etc. Donc, biométrie à trace, etc. Eh bien, l'un des principaux collèges pionniers dans cette affaire en 2002 dépose un nouveau projet, cette fois-ci avec donc cette technologie du contour de la main qui ne laisse pas de trace. Et la CNIL a donné un avis favorable en novembre 2002. Et depuis, ça a été une brèche, évidemment, dans laquelle se sont engouffrés tous les établissements qui sont passés à la lutte. Il y en a 400 aujourd'hui, il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Il est vrai qu'il y a plus de récalcitrance. Il y a 5-6 ans, là, il n'y a vraiment aucune objection quasiment à ces technologies. Il s'est passé quelque chose en 2005. En novembre 2005, il y a un groupe d'étudiants militants ont cassé des bornes biométriques dans un lycée de Gif-sur-Yvette. Et il y a eu une prise de conscience, il se passait quand même quelque chose avec des collectifs qui sont constitués autour de ça. Il y a certains établissements, notamment le premier d'entre eux qui s'est désengagé, qui a retiré le système depuis